c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord et à Coulommiers et Chamiers, aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Simon. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler largement de Cuba, de l'Amérique latine évidemment et de la Chine. On va parler aussi de l'Amérique latine et des États-Unis. Et on va finir en musique. Vous allez être surpris. Voilà, je laisse la parole à Béatrix pour nous parler de Cuba.
Oui, menace sur la Havane, l'île à la dérive. La pression états-unienne pour un changement de régime est maximale depuis l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier dernier. La veille, la journée de célébration du 2 janvier, date de l'anniversaire de l'arrivée des rebelles castristes à La Havane en 1959, s'était traduite par une fête d'une tristesse rarement observée. Pas d'argent dans les poches, pas de festivités spontanées. La crise aiguë qui a commencé il y a près de 5 ans a atteint un paroxysme au point d'étouffer jusqu'à ce dernier capital cubain, universel et gratuit. La joie. Dès l'aube du 3 janvier, à peine les nouvelles de Caracas tombées, le pouvoir à La Havane a battu le rappel de la population pour se rendre à la tribune anti-impérialiste, nom d'une place située face à l'ambassade des États-Unis en soutien au Venezuela. Les premières déclarations états-uniennes n'ont laissé aucun doute sur les intentions de Washington d'œuvrer, après Caracas, à un changement de pouvoir à La Havane. Dans les semaines suivantes, par des déclarations à la presse, Donald Trump donnera le contenu de son propre scénario. Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination de Cuba. Il interpelle aussi le pouvoir de La Havane. Faites un deal, avant qu'il ne soit trop tard. Les intentions états-uniennes sont claires sur leur brutalité, à défaut d'être précises sur leurs objectifs. On a calculé à Washington que le pouvoir cubain ONI tomberait tout seul, comme l'annonçait Trump. Le pouvoir cubain, il est vrai, était déjà sur les dents. Depuis 5 ans, tout va mal à Cuba.
Siento la nostalgia de volverte a ver, mas el destino manda y no puede ser. Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. Habana, como extraño el sol indiano de tus tardes. Habana,
como sueño con mi Habana entre dos palmas. Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos de cuando buscaba tu luna por el malecón. Habana, solo anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver. Solo anhelo regresar y ver tus playas. Habana, y volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver. Habana, mi tierra querida.
Voilà, nous avons parlé de la Havana et la chanson parle de la nostalgie de la Havana. Et nous allons continuer encore sur parler de Cuba, n'est-ce pas, Béatrice? Il est très difficile la vie là-bas.
Oui, le quotidien, oui, très, qui est difficile à Cuba. Se déplacer par ses propres moyens est un privilège de riche. D'autres questions liées au présent immédiat pèsent lourdement sur les esprits. Est-ce que l'électricité sera coupée ou pas à leur retour? Des coupures d'électricité, Cuba en a connu dans le passé. Mais elles sont devenues désormais massives, récurrentes et transforment en cauchemar l'existence quotidienne tout en contribuant à saccager une économie déjà en difficulté. S'il y a eu du courant, il est possible de compter les fenêtres allumées. Il y en a si peu. Ticket, une application dont l'emploi est obligatoire, est supposée fluidifier la distribution d'essence, mais ses utilisateurs expliquent qu'elle rend la situation plus difficile encore. Chaque propriétaire de véhicule peut aller chercher une quantité d'essence rationnée à 20 litres par mois environ. Dans ces conditions, les menaces états-uniennes, dont l'objet est de couper le robinet de pétrole vénézuélien, sont à prendre comme un potentiel coup de grâce. Dans l'île, ce devrait être le branle-bas de combat. Le président Miguel Díaz-Canel a désormais revêtu un uniforme vert olive. Le 18 janvier, il a présidé un conseil de défense nationale qui précise un communiqué intervient dans le cadre de préparatifs du pays en application de la conception stratégique de la guerre de tout le peuple. Depuis, le président Díaz-Canel a supervisé des manœuvres militaires impliquant une unité de chars. La démonstration de force semble destinée à rappeler à la population que le parti qui dirige tout n'est pas prêt à lâcher quoi que ce soit, que le gouvernement, l'armée et les forces de sécurité tiennent le pays avec les rênes courtes.
Mela o de caña, mela o de caña. los derivados. Tiene su guarapo y su miel de pulgar, pero el más rico en dulzura es el melado de caña.
Tus labios son ricos, melao de caña, melao de caña, rico en su dulzura.
Pero más rico en valor es el azúcar de Cuba.
Musique de Cuba, on a envie de danser. Mais nous allons continuer à parler de Cuba, parce qu'il y a un grand patriote cubain qui s'appelle José Martí, et il a dit quoi, plus ou moins, qu'est-ce que c'est cette histoire, Béatrix?
José Martí? Ben, je ne sais pas trop, moi. Je ne connais pas trop l'histoire de José Martí, hein. En 1891, José Martí vit depuis 10 ans aux États-Unis. Il admire bien des choses dans ce pays multiple où rien de ce qui est nouveau ne fait peur. Mais il dénonce aussi dans ses articles les ambitions impérialistes de la jeune nation, la convoitise érigée en droit et le racisme atroce qui extermine les Indiens, humilie les Noirs et méprise les Latins. Au sud du Rio Bravo, dit José Martí, il y a une autre Amérique, notre Amérique, cette terre qui n'en est qu'à ses balbutiements, et cette Amérique-là ne reconnaît pas tout à fait son visage dans le miroir européen, ni dans le miroir nord-américain. C'est la patrie latino-américaine, dit-il, que réclame Cuba pour, avec elle, être complète, alors que l'Amérique du Nord la réclame pour la dévorer. Les intérêts d'une Amérique et de l'autre ne sont pas les mêmes. José Martí a consacré sa vie à cette autre Amérique. Il veut la ressusciter dans tout ce qu'on a tué en elle depuis la conquête, et il veut la révéler, la rebeller, parce que son identité cachée et trahie ne sera révélée que si elle se déchaîne. Fils d'Européens, mais fils de l'Amérique, cubain, patriote de la grande patrie, José Martí sent couler dans ses veines le sang des peuples blessés qui sont nés des graines de palmiers ou de maïs. C'est pourquoi, épris de tout ce qui est étranger, il écrit « Il n'y a pas de lutte entre la civilisation et la barbarie, seulement entre la fausse érudition et la nature. »
Oui, alors on apprend quelque chose de José Martí qui a écrit ce poème qui est à la base de Guantanamera, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Et il a écrit ça en 1891.
Ouais.
Donc on se rend compte qu'il a été visionnaire et ça continue l'oppression yankee. Mais c'est pour cela que nous allons passer à la musique.
Thank you.
Oye, ¿cómo va? Voilà le rythme cubain. Vous êtes venu d'écouter l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons maintenant parler de la Chine vis-à-vis de l'Amérique latine, n'est-ce pas?
Oui, le grand échiquier sino-américain. Depuis deux décennies, la Chine accroît son influence dans la plupart des pays de la région, Brésil en tête. Une situation que l'administration Trump tente de contrer par la pression diplomatique et les menaces économiques et militaires. L'ambition des États-Unis de lutter contre la montée de l'influence chinoise dans la région était explicitée lorsque l'administration Trump a publié en décembre 2025 sa nouvelle stratégie de sécurité nationale. Les concurrents non hémisphériques ont réalisé des percées majeures dans notre hémisphère, à la fois à notre désavantage économiquement et de manière qui pourrait nous porter atteinte stratégiquement à l'avenir. Washington considère Pékin comme son seul vrai concurrent, celui qui a le projet et les moyens économiques et diplomatiques de détrôner à terme les États-Unis. Le bras de fer sino-américain était déjà évident en Asie et dans le Pacifique. Bien que teinté d'un impérialisme qui risque d'être mal perçu par les opinions publiques latino-américaines, toujours marquées par le colonialisme et les ingérences de la guerre froide, le diagnostic n'est pas erroné sur le fond. En tout juste deux décennies, la Chine a pris une place prépondérante auprès de la plupart des pays d'Amérique latine. La Chine achète 75% du soja exporté par le Brésil. À cette interdépendance désormais solidement ancrée, les États-Unis opposent la pression diplomatique, la menace ou l'action militaire.
Folklore au piano de l'Amérique latine, évidemment, sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons encore parler de ces problèmes. Chine, États-Unis, Amérique latine, ouais. N'est-ce pas?
S'il faut établir un point de départ à cette relation privilégiée entre l'Amérique latine et la Chine, c'est bien l'année 2001. Pendant la guerre froide, dans les années 1990, les États-Unis représentent l'acteur dominant en Amérique latine, avec des investissements massifs renforcés par les politiques de privatisation. Les entreprises états-uniennes s'y installent dans l'industrie, la finance, le pétrole. L'année 2001 est un moment essentiel pour la Chine, qui entre à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Grâce à sa forte croissance, elle achète bien davantage à l'étranger. Les autorités états-uniennes craignent que les ports, voies ferrées et les aéroports développés en Amérique latine, dans le cadre des nouvelles routes de la soie, vaste programme d'infrastructures lancé par la Chine pour étendre sa présence à l'international, puissent servir à des fins militaires. Elle constate que cette initiative à laquelle 21 pays de la région se sont associés amène aussi une proximité politique. Les États-Unis voient d'un mauvais œil l'implication de Pékin dans des secteurs sensibles, de haute technologie ou donnant à la Chine la main sur des richesses minières stratégiques. En septembre 2025, Trump a exprimé son mécontentement quant à l'inauguration, lors d'une visite au Pérou, du président chinois Xi Jinping, du grand port de Shanghai. Le président brésilien Lula da Silva affiche ouvertement sa proximité avec le président chinois. Les menaces de Trump semblent contre-productives.
L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord et ici en Europe, c'est l'hiver, mais au Brésil, c'est l'été et il y a...
Le carnaval.
Voilà.
En ce moment, à Rio de Janeiro. Le carnaval est sans doute et sans conteste la période la plus festive et colorée de l'année à Rio de Janeiro et l'édition 2026 ne fait pas exception. Les dates officielles sont du 13 au 21 février, mais comme le savent les passionnés, les festivités commencent bien avant et se prolongent largement au-delà. Selon l'agence de gestion de la ville, 462 défilés de rue sont prévus pendant la durée du carnaval. Les festivités devraient attirer quelques 6 millions de fêtards, habitants et touristes confondus, qui envahiront les rues, les places et les avenues de toute la ville. Rio de Janeiro n'est pas la seule ville d'Amérique latine à célébrer le carnaval. Chaque année, des millions de personnes à travers l'Amérique latine descendent dans les rues pour danser, vibrer au son de la musique, boire et faire la fête. Héritier d'anciennes fêtes païennes et lié depuis des siècles au calendrier chrétien, comme prélude au carême, le carnaval est devenu l'une des expressions culturelles les plus universelles et les plus diverses au monde. Bien que sa signification religieuse se soit estompée avec le temps, la célébration conserve son essence, musique, transgression sociale et identité collective. De grands spectacles urbains d'Amérique latine aux traditions populaires des Caraïbes reflètent l'histoire, le métissage culturel et la créativité de chaque région. Ce voyage réunit certains des carnavals les plus singuliers du continent, mettant en lumière leur singularité culturelle et leur pertinence contemporaine.
Et nous allons danser au rythme des sambas.
Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, toda lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama.
Mesmo com todo emblema, todo problema, todo sistema, toda Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema.
mesmo com nada feito,
com a sala escura,
com nó no peito,
com a cara dura.
Não tem mais jeito, a gente não tem cura.
É, vai levando mesmo. Vamos levando sempre direitinho.
Mesmo com todavia,
com todo dia,
com todo ia,
todo não ia,
a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa guia.
De la samba brésilienne, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects très gais, sympathiques, folkloriques de ce continent. Merci à Béatrix qui nous a livré des informations sur notre continent d'Amérique latine. Et merci à Simon, à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.
Beleza.